Bonjour et bienvenue dans Nipcoin, Nipcoin numéro 10, le podcast de la famille Nipcast qui va vous parler de crypto-monnaie et de crypto-protocoles. Nous sommes le 2 novembre 2014 et l'équipe aujourd'hui est en rang resserré avec Ben qui fait son grand retour après une Nipconf menée de main de maître. Salut Ben, comment vas-tu ?
Salut, très heureux de revenir parler crypto. Super la Nipconf, énormément de plaisir. Mais là, j'ai de nouveau un peu de temps pour me replonger dans tous les trucs qui me passionnent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des cryptos, donc c'est bien, quoi.
Exactement, c'est vrai que c'est une très bonne chose en tout cas de te retrouver. On t'a réécouté, réentendu plutôt sur NipTech lundi dernier, mais plaisir de t'avoir parmi nous. Fabrice est là aussi, donc une émission à trois voix. Fabrice, salut, comment vas-tu?
Salut Johan, salut Ben, ça va très très bien. Depuis, donc c'est vrai que je me disais tout à l'heure, ça fait une semaine, on rentrait de la Nipconf, j'arrivais à la maison à peu près maintenant, et ça fait seulement une semaine, ça fait déjà une semaine en même temps.
Et c'est vrai que le temps passe très très vite. Alors je crois savoir aussi hein, que ces derniers temps, tu as aussi planché sur des sujets crypto. Peut-être tu voudras nous en dire quelques mots dans le déroulé de l'émission, mais je crois que tu as un petit peu travaillé dessus, non, ces derniers temps?
Oui, en fait, on peut y aller tout de suite, comme ça nous met dans le bain. Oui, il se trouve que il y a toutes les fins de tous les mois de décembre au Luxembourg, un événement qui regroupe un peu le Gotha de l'IT luxembourgeoise, qui s'appelle le Gala IT One. Et en fait, sur cette année, ils ont lancé une sorte de petit contest d'articles de fond, où ils demandaient aux acteurs locaux de faire un article. Et puis, il se trouve qu'il n'y avait rien sur les cryptocurrencies, donc je me suis donné comme objectif de faire un article sur ce sujet-là. Et j'ai été aidé pas mal par Stéphane Tual, qu'on connaît, avec qui j'ai pas mal discuté, qui m'a donné un peu de matière aussi. Il fallait que ce soit l'article qui ne mette pas en avant une marque ni une société, mais j'ai quand même parlé d'Ethereum parce que c'est au moins un exemple concret. Avec une approche bien précise, ça avait ce mérite-là. Et donc oui, voilà. Donc il fallait pas que ce soit trop technique, donc je n'ai pas fait technique. Mais on pourra éventuellement mettre l'article sur le site Nipcast une fois qu'il aura été fin décembre ou mi-décembre, une fois que ça aura passé le concours, et puis on dira, je dirais si j'ai été sélectionné, si on n'a pas été
Oui,
sélectionné. Voilà,
c'est je
ça sera
pense
toujours mieux.
les éléments qui seront intéressants, c'est que voilà, la communauté, en tout cas, on relaiera l'URL de l'article, et puis c'est voilà, de prolonger un petit peu la discussion si tout du moins des avis émergent de cette lecture. Peut-être Ben, tu avais un petit mot à compléter là-dessus?
Non, je suis surpris qu'au Luxembourg, il n'y a pas de... Je pensais que vous étiez obsédé par les cryptos, hein, et que c'était... Voilà, mais c'est bon à savoir que finalement, nous qui fourbissons nos armes ici en Suisse, on est prêts, parce qu'on en parle ici, je peux vous dire, on en parle. Donc retroussez-vous les manches dans toutes les régions où vous n'en parlez pas.
En fait, les gens qui ont soumis des articles et le public de ce type d'événement, c'est les CIO, les responsables informatiques des grandes banques, des institutions. Donc, je suis pas sûr que ce soit eux les plus passionnés des cryptocurrencies.
Je pense que dans ce cas-là, tu as dû apprécier l'article du CIO du BS, justement, qui parlait de l'importance des cryptos pour les banques et de leur de vraiment, on va dire, l'objectif que devraient avoir les banques que de s'intéresser au plus près de ces protocoles-là. Je t'enverrai l'article aussi parce que vraiment, il vaut le détour.
J'espère qu'il sera sur le site, dans les notes de l'émission aussi.
Eh bien, écoute, il sera dans les notes de l'émission. En tout cas, je m'y engage. tu parlais justement de la Suisse et de l'effervescence helvète, justement, autour des cryptos. Alors, bien entendu, la Nipconf a eu lieu. Ça se passait sur 2 jours. Ça s'est très, très bien passé. Vraiment, moi, en tout cas, j'étais là cette première journée et c'était vraiment magnifique. Sur la deuxième journée, ça a été un petit peu plus... on mettait les mains dans le moteur ou sous le capot de pas mal de sujets, dont les cryptos, avec Ethereum, effectivement, qui était là pour des ateliers. Est-ce que Ben, Fabrice aussi, vous y étiez tous les deux, mais est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister ou qui voudraient savoir un petit peu ce qui s'est passé ?
Ouais, alors la Nipconf, c'était effectivement sur un jour, et le lendemain, on s'est dit, pour ceux qui aiment écouter, apprendre, et parler et partager, mais aussi faire, eh bien, on allait organiser quelque chose. C'était en beaucoup plus petit comité. Hein. On a fait ça à un endroit qui héberge aussi d'ailleurs Aquarium, H-A-C-K, Warium, là, qui est un biohacker space. Donc il y a certaines personnes qui ont fait du biohacking. Il y avait aussi pas mal d'outils pour faire du hacking hardware qui était sympa. Et puis la partie crypto avec Seventual qui était venu nous montrer justement comment utiliser Ethereum. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est que je pense que ce que la plupart des gens ont appris et voulaient apprendre, c'est pas tellement à faire les applications même, parce qu'on n'en est même pas encore là, mais plutôt à faire le setup pour réussir à utiliser Ethereum qui se définit maintenant comme le web sans les serveurs. Hein. Donc la blockchain, évidemment, ça permet de faire toutes sortes de sauver des données, mais bon, on ne peut pas encore communiquer avec d'autres ordinateurs, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Les langages qu'on peut utiliser sur Ethereum, comme Go, comme Python, etc., on peut faire tourner des différents programmes, mais il manque encore toute une série d'autres éléments qu'il faut installer. Moi, je m'occupais un petit peu de regarder tout ça, donc je n'ai pas vu, mais j'ai vu surtout des gens qui ont passé quand même, qui ont pas mal sué pour mettre en place les bases et qui ont tous réussi quand même, donc bravo à eux. Mais ça me rappelait le développement web d'il y a quand même beaucoup d'années où juste on se grattait la tête à essayer de mettre en place les serveurs, alors que maintenant les gens qui arrivent au Startup Weekend, c'est un clic, bam, et puis on commence à développer, quoi.
Mais c'est vrai que une bonne partie du lab a consisté à installer la plateforme. Mais je dois dire que je ne sais pas si tu étais encore à l'hôtel le soir, mais moi, le soir à l'hôtel, sur les coups de 22 heures, il y avait encore Stéphane avec deux, trois personnes qui étaient dans le hall en train de développer sur la plateforme, hein, dans le hall de l'hôtel. Donc il y a un groupe de fanatiques et de passionnés même qui est resté, qui a fait ça jusqu'à très tard. Et Stephen Tuel avait l'air très très content du résultat où ils en étaient arrivés.
Ouais, c'est des personnes qui travaillent dans une société, hein, l'un ou l'autre, qui ouais. Était justement aussi des exposants, qui s'appelle SBEX, SBEX.ch, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est vrai que là, quand on a dû partir de l'endroit, parce qu'on avait pensé finir vers les 6 heures, hein, tranquille, après une longue journée de conférence la veille, eux, ils étaient clairement pas prêts. Ils faisaient un système de messagerie, une sorte de WhatsApp décentralisé d'une part, mais crypté aussi d'autre part, avec donc toute la sécurité que peut offrir. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec une plateforme comme Ethereum. Et donc, imaginez qu'entre le matin du moment où ils ont commencé à installer à midi, ils avaient plus ou moins fini, et à 22 heures, ils avaient un prototype, même à 18 heures, ils avaient déjà un prototype. Ouais. De WhatsApp décentralisé, donc on voit la puissance, hein, de ces plateformes comme ça va vite.
Totalement incroyable. Ah, d'accord, j'avais pas eu vent, j'imagine que Tom tout court était dans le coup. D'accord. Ouais. Ouais, ok, effectivement, c'est incroyable de voir que déjà y a eu du concret qui s'est passé et pourquoi pas une application qui verra le jour, un de ces quatre, mais en tout cas très intéressant de voir la tournure que ça a pu prendre. Vous parliez de participants, grosso, pour avoir une idée, il y avait pas mal de monde aux différents ateliers, c'était à peu près quoi l'ordre d'idée?
Ah là, il y avait, c'était à peu près, il y avait 30 à 40 personnes, et puis les plus vaillants étaient venus pour les cryptos, hein. C'est ceux qui étaient à l'heure, c'est ceux qui sont restés jusqu'au bout, les autres étaient plutôt venus juste regarder comment ça se passait. Il y a bien une quinzaine de personnes, hein, pour le truc.
Oui, pour les cryptos, ouais. Wow. Et je n'avais jamais vu autant de pizzas en même temps en un seul moment que ce jour-là.
Oui, effectivement, il y a quelques photos qui ont fuité sur Twitter et c'était assez incroyable de voir ce nombre de pizzas incroyables les unes à côté des autres. Or, peut-être donc vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui prendraient l'émission comme ça sans trop savoir où on en est, donc aujourd'hui ça va être une émission un petit peu bilan où on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur les 10 derniers épisodes. Donc là, on a fait en quelque sorte aussi le bilan de ce qui s'est passé sur cette journée post-NIPConf et sur les ateliers, notamment l'atelier crypto. Donc 9 émissions se sont passées. Aujourd'hui, nous sommes donc à la 10e.
Tu peux dire
pas
10
mal de
parce
sujets.
Que je crois qu'on avait eu une 0 qui était la pilote. Donc,
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, on y est vraiment en plein dedans. T'as totalement raison mathématiquement de me rappeler à l'ordre. c'est vrai que cette 0-là, je l'avais pas compté comme étant une vraie première. Mais en tout cas, il y a pas mal de sujets qui ont pu être abordés, en tout cas ces dernières émissions, que ce soit des sujets autour des altcoins, que ce soit des sujets très techniques, hein, sur la chaîne de blocs, le minage, le forgeage, enfin tout ce qui était proof of quelque chose. On avait passé en revue les notions d'anonymat, enfin pas mal de notions. Donc vraiment, je vous invite, si quelques éléments sont encore un peu troubles, ou si vous voulez juste vous rafraîchir la mémoire, d'aller à l'écoute de ces émissions-là. Elles sont vraiment très intéressantes sur ces sujets-là. Alors là, on va essayer un petit peu de revenir sur tout ce qui se passait au niveau des altcoins, de Bitcoin au sens monétaire du terme. Et je crois que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de choses qui ont un petit peu bougé. Ben, je crois que savoir que tu t'es pas mal intéressé, en tout cas, à certains éléments. Peut-être que avant de rentrer dans le vif du sujet, tu un petit peu en préambule, tu vas nous dire les dernières actualités, en tout cas sur le monde des altcoins.
Ouais, moi ce que je trouvais intéressant, d'abord, je regardais la première émission qu'on a eue, c'était quoi ? C'était le 13 juin. Et si on regarde le 13 juin, on avait un Bitcoin quand même qui valait, on était à quoi ? On était à peu près à $600.
Ouais, c'est exact, exact. Si on doit être dans les chiffres, effectivement, on était même dans les 650.
Ouais, là j'ai alors sur CoinMarketCap, ils le mettent à 600, mais c'est vrai qu'il, voilà, 650, c'était juste un peu avant le 6 juin. Ouais, bon, ça bougeait déjà beaucoup, hein. Le 6 juin, il était à 650, le 15 juin, il était à 550, et le 30 juin, de nouveau, à 650. Bon, quelle belle introduction pour le besoin d'avoir aussi des altcoins. Bon, entre-temps, je dois dire que on a vu quand même la montée en puissance, hein, de BitShares, moi qui m'a énormément intéressé et qui continue, et puis des sujets dont on a traité, hein, dans la renaissance de Ripple, qui était vraiment au plus mal, et qui prouve que, comme dans tous les produits, finalement, les scandales qu'il y a eu autour et tout ça n'ont pas fait beaucoup de mal à cette plateforme. Je trouve ça hyper intéressant parce que, pardon, quand je parle de Ripple, j'ai de l'émotion, quoi. C'est vrai que c'est une plateforme qui s'adresse vraiment à un côté pas très sexy, mais hyper utile, qui est vraiment ces transactions, le back-end financier. Et j'aime bien voir finalement que c'est les monnaies, les altcoins, qui promettent de faire de l'infrastructure, du back-end, qui sont en train de prendre le dessus sur ceux qui avaient des objectifs peut-être plus politiques, ou même des trucs comme Namecoin et ça, qui ont un peu plus de peine parce qu'ils n'avaient pas franchement défini le côté .bit, et ça n'a pas vraiment pris par rapport à ce qu'on aurait pu penser il y a encore quelques mois, quoi. Donc moi, c'est là un petit peu le où j'en suis de ma réflexion sur les altcoins. Je suis pas hyper certain, mais on en parlera après, qu'on aura forcément besoin de beaucoup de altcoins. J'étais peut-être plus convaincu au mois de juin quand on a commencé que maintenant, je dois dire.
Oui, alors peut-être pour rebondir un peu sur cette réflexion, tu as raison de parler de où était le Bitcoin quand on a commencé l'émission. Tu aurais pu aller préciser à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que c'est
oui,
je pense,
raison,
une continuité,
pardon,
intéressante. Et aujourd'hui, on en est aux alentours des 320-330 $, enfin, selon les plateformes qui font la valorisation et sur lesquelles on peut trouver ce genre d'informations. Là où je te rejoins, en tout cas sur une des réflexions, c'est qu'effectivement 50, 60 ou même 200 altcoins différentes, telles qu'on en a vu se créer et même mourir, hein, dans ces 6 derniers mois, c'est vrai que de manière évidente, tout le monde n'aura pas sa place et tout le monde n'a pas sa place. Certaines, tu l'as dit, ont des vocations de temps en temps plus politiques, mercantiles, voire plus fonctionnelles. Donc on voit bien que forcément d'arriver à s'imposer et d'être dans la continuité et dans la continuité de la liquidité hein, d'une coin. C'est aussi ça l'importance pour que la coin vive en elle-même. C'est vrai qu'il y a pas mal d'alt qui se sont lancés et qui ont pu connaître voilà, des déboires, on va dire, ou des trajectoires vraiment différentes. Pour
juste
autant...
Ouais, oui. Peut-être un truc pour mettre en perspective, on parlait du hackathon avant. D'habitude, quand on est dans ces trucs coin, tout le monde obsède sur la valeur. Je ne crois pas avoir entendu quelqu'un parler de la valeur de Bitcoin ou d'une autre crypto au hackathon. Et c'est pour vous montrer qu'effectivement, les gens qui créent des choses avec ça, le côté financier, comme on disait, spéculation, il est tellement loin de leur esprit que bah, cette voilà, ça simplement n'était pas un sujet.
Là-dessus, enfin, je pense que les 6 mois qui nous séparent du début de l'émission, enfin du podcast, c'est vrai qu'une réflexion, je pense, qu'on a tous eu et sur lequel tu as raison de remettre des mots dessus, c'est que finalement, ce qui est intéressant dans le Bitcoin ou dans les cryptos, c'est non pas la crypto-monnaie en elle-même, c'est beaucoup plus les crypto-protocoles, ce qu'on en fait, ce qu'on peut en faire et la puissance du potentiel que ça a pour les futures applications qui sont en train justement d'être créées. Je pense que c'est ce monde-là hallucinant qui nous émerveille enfin, et qui nous surprend et qui nous intrigue et qui voilà, nous motive dans cette quête de d'informations et de vouloir comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se faire. Là où on va, et tu as raison de séparer ces deux sujets, là où par contre on peut peut-être un petit peu plus faire un zoom là présentement, parce qu'on l'a évoqué à différents moments, c'est vraiment sur la valorisation et sur l'aspect financier qu'ont ces alt. Pourquoi on y revient, c'est parce que comme toujours, est-ce que c'est logique de voir des trajectoires de volatilité aussi importantes? Est-ce que toutes les altcoins qui ont des trajectoires quasi similaires à celles du Bitcoin, est-ce qu'on peut les expliquer par toujours les mêmes éléments? Est-ce que ou est-ce que l'adoption de ces monnaies, justement, elle est totalement décorrélée de leur valeur elle-même? C'est autant de questions que je trouve, moi, en tout cas, intéressantes à un petit peu plus creuser. Mais tu as raison, en tout cas, de vraiment bien séparer le côté on s'intéresse à l'aspect financier ou pas. Bah non, ce qui est tout aussi intéressant, c'est ce qu'il y a à côté des cryptos.
Ouais. Ouais, il y a quelques signaux encourageants, mais je suis pas sûr comment les lire. Je sais pas si vous avez passé. Il y a le graphique, enfin on peut le voir hein, sur plein de sites en ligne, du nombre de transactions de Bitcoin qui est quand même en assez forte hausse. Donc il y a des gens qui disaient ouais, voilà, c'est la preuve effectivement que peu importe le fait que la valeur baisse. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de transactions augmente. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est des transactions utiles. Et ça, on n'en est pas certain. Si c'est des transactions genre ce qui se passe, qu'il y a beaucoup de wallets qui tournent un petit peu entre eux pour éviter d'être toujours au même endroit, ou bien des transactions de spéculation et autres. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, et je ne sais pas si ça existe, c'est d'avoir un numéro, enfin, le nombre de transactions commerciales, par exemple. Ça serait vraiment des indications riches pour avoir l'optimisme ou pas. Est-ce que vous avez vu passer ça? Est-ce que ça existe
Vraiment, enfin, peut-être Fabrice là-dessus.
Non, je dis que ça ne doit pas être évident à faire directement, non, hein. En tout cas en partant du Bitcoin. Après, c'est vrai que si on récupérait les stats des sites marchands, des choses comme ça, qui l'acceptent, on pourrait plus en avoir. Mais c'est pas évident uniquement avec les bitcoins. Il y a aussi pas mal de transactions finalement. On parlait des autres altcoins et les altcoins sont finalement assez liés au bitcoin parce que quand on regarde et Ripple aussi d'ailleurs, quand on ouvre un compte Ripple, eh bien il faut l'ouvrir avec des bitcoins. La toute première étape consiste à transférer un peu de bitcoin pour ouvrir son compte. Et quand on regarde, quasiment toutes les crypto-monnaies sont liées au bitcoin parce que les premiers coins, on les échange contre du bitcoin. Y compris d'ailleurs pour Ethereum, quand ils ont démarré avec en échangeant l'Ether, le ETH contre du bitcoin.
Oui. Ouais,
là, ce sont des transactions
pour revenir
utiles.
En tout cas sur les transactions utiles, comme le disait Fabrice, tu as raison, c'est vrai que ça serait compliqué à mettre en tout cas en évidence. Un élément par contre qui a d'intéressant, c'est de voir le nombre justement de sites marchands qui acceptent les transactions en Bitcoin. Et là-dessus, on voit vraiment qu'il y a eu un nombre quasiment explosif hein, de sites qui le. Quasiment 150 000 sites de e-commerce différents aujourd'hui, je crois, sont capables d'accepter ce genre de transactions. Donc, je pense que voilà, il y a aussi un effet, une corrélation entre le nombre de sites qui vont accepter l'achat en Bitcoin et le nombre de transactions. Donc, je pense que voilà, il y aura un effet en tout cas là-dessus. Et tu as raison de le dire que c'est peut-être la statistique ou en tout cas ou les éléments intéressants pour arriver à mieux intuiter la vitalité. De cette monnaie-là.
Ouais, y a, juste, j'ai retrouvé l'adresse, hein, c'est sur évidemment blockchain.info et vous allez sur /charts/n-transactions, mais si vous cherchez transactions per day, vous trouvez tout ça. Et puis c'est vrai qu'on voit que la tendance est légèrement, est repartie à la hausse depuis quelques temps. Mais enfin, c'est pas encore non plus, on voit qu'il y a des moments où ça explose, là ça repart gentiment, hein. On n'est pas non plus dans les moments du début, on a l'impression que ça irait vers l'infini très, très vite, quoi.
Ouais, je voulais aussi remettre peut-être un petit peu en perspective, on va dire par des keywords, des grandes étapes de Bitcoin en tout cas pour appréhender aussi un petit peu mieux le pourquoi du comment de cette valorisation. Et donc on a tout ce qui s'est passé autour de Silk Road, et ça continue peut-être encore. Il y a ce qui s'est passé autour de Mt. Gox. Il y a ensuite les différents blocages légaux de l'utilisation du Bitcoin, que ce soit en Chine, que ce soit dans certaines parties du monde, où on voit que l'aspect légal, législatif est prépondérant aussi. Et il faut, voilà, je peut-être pas perdre non plus de vue que on n'est peut-être pas encore à l'abri d'un calme total autour de cette crypto-là. Je pense qu'on aura encore pas mal de rebondissements et pas mal de sujets à traiter dans le futur autour de ça. En tout cas, vraiment, c'est assez intéressant de voir la tournure des choses, quasiment une valorisation en tout cas du coin, du Bitcoin divisé par 3, enfin par 2 en tout cas là en l'espèce. Pour les autres coins, je ne sais pas si vous vous êtes amusé un petit peu à regarder entre juin et aujourd'hui ce qui s'est passé. Alors ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est Ripple, sa valeur du Ripple quasiment divisée par 5. Le Litecoin aussi, dont on a pas mal discuté, rappelez-vous la fameuse deuxième crypto en termes de valorisation au mois de juin-juillet qui représentait quasiment 150 millions, qui n'est plus aujourd'hui la deuxième crypto en termes de valorisation. Donc c'est tout aussi intéressant. Elle a été dépassée d'ailleurs par Ripple malgré ces derniers mois de baisse continue. Et pour finir, Dogecoin qui finalement est la altcoin qui s'est le mieux comporté, avec une valorisation uniquement divisée par 2. Et je trouvais ça intéressant peut-être de s'attarder 2 petites minutes là-dessus. Est-ce que justement vous avez continué à entendre parler de Dogecoin, parce que pour rappel c'était vraiment la crypto star de l'internet. Alors est-ce que vous avez entendu des projets qui continuaient à vivre autour de ça, enfin, ou tout du moins avez-vous entendu des choses autour de Dogecoin?
Fabrice, je sais pas comment ça.
Non, j'ai pas entendu de rien de particulier. Et j'avoue que c'est pas une. Même si j'en entends souvent parler, c'est jamais quelque chose que j'ai regardé personnellement de très près. Donc non, j'ai rien entendu.
Ouais, moi, ça m'intéressait en tant que monnaie communautaire. Hein. Je pense qu'elle va rester là à ce titre-là. Le fait qu'elle soit pas chère a permis à des choses, on en avait parlé, à des projets qui veulent construire des chaînes sur des. Enfin, sans que ça leur coûte un bras, c'était bien d'utiliser Dogecoin. Parce qu'on peut avoir énormément de Dogecoin sans avoir à dépenser trop, quoi. Et puis on s'en fiche s'il reste un petit peu de poussière dans ce cas-là. Donc ça c'est bien, mais par contre c'est vrai que la communauté a bien joué son coup aussi en liant le minage à Litecoin, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça,
ouais, totalement.
C'était bien vu aussi. Je crois que ça va dans le mouvement un petit peu de consolidation qu'on va voir par la suite aussi. Mais c'est vrai que je vois moins... Il me semble qu'on est dans une phase où il y a moins d'ambition. Je voyais des projets vraiment partir dans tous les sens. Et j'ai l'impression que... En voyant qu'il n'y aura peut-être pas de l'argent infini pour tout le monde, on a des équipes qui se resserrent et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Dogecoin en fait tout à fait partie, quoi.
Ouais. Ouais, alors il y a quand même eu hein, sur Dogecoin hein, une news, enfin on va dire un élément particulièrement important ces dernières semaines, c'est l'arrivée de Twitch TV comme étant, on va dire, une plateforme de streaming de jeux. Hein, on en a déjà souvent parlé dans Niptech, hein, donc ça c'est un petit ping pour eux. N'hésitez pas à aller réécouter les émissions autour de ça parce que c'est pas mal intéressant. Mais donc Twitch TV a clairement en tout cas dit voilà, ben on va utiliser les Dogecoin comme étant la crypto pour pouvoir s'abonner au service de streaming. Donc voilà, à partir du moment, enfin, et donc ça maintient, comme on disait, ce fameux élément de dire c'est une sorte de monnaie de l'internet, monnaie communautaire. On voit qu'il y a aujourd'hui une plateforme comme Twitch TV qui est quand même une grosse plateforme. C'est quand même intéressant de voir que voilà, elle arrive à se tourner du côté des cryptos. Et ce que je trouve tout aussi intéressant, c'est de voir que de plus en plus de sites internet aujourd'hui se retournent un petit peu vers les cryptos pour arriver à s'autofinancer ou en tout cas à faire appel à la communauté ou en tout cas faire vivre également une monnaie. On parlait hein, dans la précédente émission, alors je sais pas Ben si t'en avais eu vent aussi, mais que voilà, Reddit aussi avait émis sa propre crypto et fait un système tout aussi ingénieux et intéressant pour faire en sorte de trouver des éléments de financement supplémentaires. Donc moi, c'est vraiment à ce titre-là que je trouvais intéressant de rappeler ça.
Je pense que quand on parle de Dogecoin, il y a aussi le petit dernier scandale là, de Moolah, cette plateforme qui a fermé à la fin du mois passé, donc à la fin du mois d'octobre. Qui faisait partie un petit peu de cette communauté Dogecoin, c'était un des scandales de plus. C'est vrai qu'on a arrêté de les compter, hein, les scandales dans les cryptos depuis, parce que sinon
on pourrait faire... C'est pour ça que je l'ai trouvé bon aussi de les rappeler, parce qu'il ne faut jamais les oublier, et je pense qu'on en connaîtra encore d'autres.
Ouais, c'est ça, donc Moolah a fermé, visiblement c'était un scam, malgré le fait que ceux qui sont liés à cette opération le nient. Je trouve, il faudrait que je me replonge. C'est vrai qu'un temps j'étais plus sur la communauté Reddit de Dogecoin, mais au moment où les prix baissaient, comme tout le monde s'énervait et puis faisait soit des gags pour dire que c'était cool, soit des insultes et des menaces, j'ai un peu perdu patience et puis j'ai moins été là-dessus.
Non, c'est clair que, en tout cas, moi je sais que la communauté Reddit, enfin, ou les différentes communautés qu'on peut trouver sont vraiment foisonnantes en termes de discussion. Ça ferait peut-être partie aussi peut-être d'une future émission de données comme ça sur 3-4 minutes des sites sur lesquels on peut aller chercher des informations intéressantes et sur lesquels voilà, il y a des communautés on va dire assez foisonnantes en termes de vitalité sur ce qu'on peut entendre sur le monde des cryptos. Donc voilà, ça sera en tout cas quelque chose à faire je pense pour les prochaines émissions. Or je sais qu'on le dit souvent, mais je le répète, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le site internet nipcast.com pour venir agrémenter de vos commentaires les différentes émissions. On a eu plaisir ces dernières émissions, en tout cas, à voir que voilà, des personnes revenaient un petit peu sur ce qu'elles avaient entendu et nous amenaient des éléments supplémentaires. Donc c'est vrai que voilà, même le document de l'émission vit à travers le temps. Il a été modifié suite à la dernière émission, par exemple, où certains certains articles fort intéressants ont été amenés. Et donc voilà, on veut toujours voilà, vous dire que voilà, c'est à travers la communauté que ce genre de podcast continue de bien fonctionner. Donc que c'est vrai que voilà, on n'hésitait vraiment pas, que ce soit Google+, que ce soit Twitter, @Nipcoin ou tous les autres moyens dont vous avez à disposition pour rentrer en contact avec nous. Nous sommes toujours présents et demandeurs.
Oui.
Fabrice, je te voyais réagir.
Non, oui, mais pour revenir à la partie tendance, en fait, on faisait le point un peu, on regardait les évolutions et ces dernières semaines et puis regarder devant. Et revenir à la partie plateforme, moi, ce que je suis vraiment curieux d'observer dans les mois qui viennent, c'est... est-ce que on va assister à une utilisation de plus en plus généralisée de la blockchain Bitcoin en tant que telle pour créer des nouveaux services sur la blockchain sans forcément que ce soit des monnaies d'ailleurs, comme on a évoqué déjà plusieurs exemples là, dans d'autres épisodes, ou alors est-ce que des blockchains alternatives comme ce que font Ethereum, ce que font Ripple par exemple, où là la blockchain du Bitcoin elle-même n'est pas du tout utilisée pour créer les nouveaux services. C'est vraiment deux tendances, et quand je lis les articles qui se rapportent de la plateforme, il y a vraiment les deux opinions. Certains disent que la blockchain de Bitcoin est trop limitée pour faire vraiment des services pour être... C'est un peu ce que je comprends en tout cas du discours d'Ethereum. C'est trop spécialisé pour la monnaie et pas assez limité pour faire vraiment un web sans serveur. Donc autant créer quelque chose de plus propre qui est basé sur les mêmes technologies, c'est la cryptographie, mais plus propre. Et d'autres disent qu'aujourd'hui, même si les bitcoins ne sont pas encore en tant que monnaie, ça reste très très loin derrière les vraies monnaies, en tant que plateforme c'est très très déployé. Et donc, il est très difficile de faire émerger une autre plateforme. Donc, autant se baser sur celle-ci parce qu'elle est déjà hyper déployée. Et donc, le fait de pouvoir vraiment, toutes ces règles de 51%, etc., le fait de pouvoir vraiment avoir les avantages du consensus décentralisé, il faut être très déployé et Bitcoin l'est déjà. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir les deux ? Est-ce qu'on va rester sur la blockchain ? À voir.
Bon, je pense que c'est la discussion qu'on a eue juste avant que l'émission commence, hein, qui est sur ces sidechains, qui est le gros sujet du moment dont on peut pas vraiment faire l'économie. Je pense que j'ai rarement vu des gens aussi excités que ça. C'est pas nouveau les sidechains, mais c'est vrai que c'était un peu l'arlésienne. On savait que ça allait venir, mais ça venait pas. On savait que ça allait venir, ça venait pas. Et qu'est-ce que ça fait les sidechains ? C'est simplement la possibilité de créer des chaînes à partir de la chaîne Bitcoin, sans avoir donc à tout réinventer de l'infrastructure. Et donc en sécurisant finalement, en compartimentalisant des chaînes, c'est cool. Moi, je pense que la discussion, elle porte tout souvent sur le fait de savoir si les altcoins ont encore une nécessité. C'est une blockchain pour les... C'était quoi les Pokémon ? One to rule them all. Mais je pense qu'on va arriver à quelque chose, effectivement, avec un gros Bitcoin pour tout ce qui est financier. Ripple, je suis un peu inquiet. Ethereum, je suis pas trop inquiet parce qu'ils ont quand même un autre objectif et une autre façon de fonctionner qui, à mon avis, les rend immunisés à ce genre de choses. Mais... je vois mal comment on resterait encore à plus de 4 ou 5, crypto d'ici un an ou deux, quoi. Qui a eu de la masse. Vous en voyez, vous pensez que cette sidechain, de ce que vous voyez, ça a vraiment ce potentiel-là ? Ou on est juste en train de nouveau de s'exciter sur du vent, comme on le fait depuis un moment avec les cryptos ?
Non, moi je trouve intéressant, moi je trouve j'ai pas lu le white paper encore, je vais le faire. Mais je trouve intéressant l'initiative de un peu standardiser, on va dire, ou formaliser les utilisations de la blockchain Bitcoin pour d'autres choses, et rajouter des services tout en gardant l'infrastructure.
De toute manière, c'est le gros problème de Bitcoin, on ne peut pas toucher l'infrastructure. C'est tellement complexe, il y a tellement de gens qui utilisent pour tellement de choses, et c'est le gros problème du décentralisé, c'est que chacun a fait son truc, et puis dès qu'on touche la moindre chose, on va embêter les trois quarts, dans quelle que soit la direction qu'on décide d'aller. C'est quand même une sacrée malédiction et je pense que la sidechain répond magnifiquement à ce problème, sans quoi Bitcoin, en tout cas, c'est impossible d'en faire l'économie maintenant, quoi.
Oui. Mais c'est vrai que c'est une réponse.
Ah, Johan, je pense que tu n'as pas remis ton micro.
Ouais, excuse-moi, là, ça y est, je viens de voir le pourquoi est-ce que j'arrivais pas à me faire entendre.
Non, t'ignore pas, bien au contraire.
Non, je sais bien. Non, j'étais pas totalement en phase, mais bon, comme tu l'as présenté sur la nécessité de pourquoi est-ce que la sidechain elle est aujourd'hui plus d'actualité, là où j'arrive pas totalement à avoir cette même perspective, c'est sur finalement un arrêt ou on va dire une moins grande utilisation ou un arrêt programmé finalement des autres altcoins. Je pense que malgré tout il en restera, et même celles qui sont basées sur le Bitcoin aujourd'hui ou sur des dérivés de type Litecoin, il y en aura toujours une partie qui restera et qui sera toujours dans une utilisation basique, mais une utilisation claire, nette et précise de parce qu'elles sont là depuis aussi un certain temps et que la communauté et que leur communauté les a déjà bien adoptées. Après, oui, c'est une nécessité aussi qu'on puisse faire différemment, parce qu'effectivement le ça peut devenir aussi trop limité, comme tu l'as dit.
Bah, tu vois, augmenter la taille des blocs, augmenter la rapidité des transactions, enfin, on entend beaucoup de choses et on voit que c'est impossible à mettre en place sur Bitcoin. Ouais. Bah, par contre, à voir encore la première implémentation d'une sidechain, ça va être. C'est vrai que
ouais,
c'est
ça sera encore une autre paire de manches. C'est clair. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a encore pas mal d'autres sujets, voilà, qui vont s'ouvrir à nous dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment grand plaisir de voir que ça bouge et que ça frétille toujours autant. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission d'aujourd'hui. Donc, voilà, il va falloir, en tout cas, qu'on vous laisse à tous. Ça a été un grand plaisir, Ben, Fabrice, d'avoir pu faire cette émission avec vous et d'avoir pu partager ce moment-là. J'espère que voilà, vous qui nous avez écouté, vous avez pris autant de plaisir. N'hésitez vraiment pas, si on a dit des grosses bêtises ou si vous n'êtes pas du tout d'accord ou si au contraire vous voulez nous dire aller un petit peu plus loin avec cet article, voilà, à venir participer sur le site internet, dans le document de l'émission, à revenir dessus. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne quinzaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir et bye bye.
Ciao. Bye bye, au revoir à tous.